Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Métropolez-vous, notre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité métropolitaine. Je pense qu'il n'a échappé à personne que depuis les récentes élections municipales de mars 2026 et la réélection de Jean-Luc Poudinck à la mairie de Toulouse, puis à la présidence de Toulouse Métropole, nous sommes au début d'un nouveau mandat. Il va s'étaler jusqu'au printemps 2033. C'est une longue parenthèse qui s'ouvre dans tous les domaines, relevant des compétences et missions de la collectivité métropolitaine. Il m'a semblé que ce début de mandat était le bon moment pour faire le point sur la situation financière de Toulouse Métropole, dans un contexte de baisse des dotations d'État, de hausse des tarifs de l'énergie et d'augmentation de la population qui vit et travaille sur notre territoire. Quelles questions cela pose-t-il? Quels sont les enjeux et les perspectives des années à venir? Et comment allons-nous y faire face? Voilà les interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre lors de ce numéro. Et pour faire ce point et répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances. Bienvenue à vous aussi, monsieur, et grand merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, bonjour.
Vous êtes également adjoint au maire de Toulouse, toujours pour la partie finances, et pour revenir à la métropole. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, rappeler et préciser le rôle, le fonctionnement et les missions de la commission finances de Toulouse Métropole? Je pense que c'est important de les connaître pour nos auditeurs.
Alors, Toulouse Métropole, c'est en quelque sorte une holding qui regroupe les 37 communes membres de Toulouse Métropole. Ce n'est pas simplement une structure qui serait en relation avec la commune de Toulouse, la commune centre, même si elle pèse 2/3 de la population, c'est bien le territoire et les 37 communes de Toulouse Métropole qui sont intégrées dans cette métropole. Et la métropole, elle a des compétences particulières en matière d'aménagement, de développement économique, d'habitat, de politique du logement et d'urbanisme, pour l'essentiel. Il y a aussi un volet environnemental qui comporte notamment la GEMAPI, la gestion du milieu aquatique et de la prévention des inondations, et qui se traduit aussi par des actions pour la préservation de la qualité de l'air ou d'une façon générale de réduction des émissions de CO2 au travers, par exemple, du PCAET. Donc la métropole, c'est des compétences particulières, parce que les gens et vos auditeurs, comme tout le monde, probablement ne font pas très bien la différence. Mais ce que font les communes, la métropole ne le fait pas. Ce que fait la métropole, normalement les communes ne le font pas. Et donc, à l'intérieur de cette structure où il y a un certain nombre d'axes politiques à mettre en œuvre, la commission des finances de Toulouse Métropole, qui regroupe des représentants de toutes les communes, de sensibilités diverses, a vocation à débattre des orientations du budget de la métropole et de contribuer à animer le débat avant que les choix qui relèvent de l'exécutif soient réalisés à l'occasion notamment de chaque budget.
Eh bien, pour poser les choses justement et toujours dans le but de savoir de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez détailler les grandes lignes du budget 2026 de Toulouse Métropole? Quel est son montant global? On va commencer par là, et puis la répartition dans ce montant global entre investissement et dépenses de fonctionnement.
C'est toujours difficile de parler de chiffres parce qu'on a évidemment à travers ces chiffres des réalités qui doivent souvent faire l'objet d'explications et parfois d'explications détaillées qui sont assez compliquées à exprimer. Pour essayer de faire simple, on va dire que le budget de la métropole, c'est grosso modo un budget qui aujourd'hui atteint à peu près 1 milliard d'euros. Pour ce qui est du fonctionnement, puisque je rappelle qu'on distingue le fonctionnement, les dépenses courantes, de l'investissement qui est la gestion du patrimoine. Donc à peu près 1 milliard d'euros. Je rappelle également qu'il y a des budgets annexes. L'eau, l'assainissement, c'est un budget annexe. Les déchets ménagers, c'est un budget annexe, etc. Donc un budget annexe au budget principal, là je parle du budget principal, à peu près 1 milliard d'euros. Mais ce budget qui peut paraître important doit immédiatement être réduit parce qu'en fait, au moment de la création de la métropole et au moment de ce qu'on appelle le transfert des recettes économiques, il y a eu un calcul savant pour faire la différence entre les charges que les communes transféraient à la métropole et les recettes, c'est-à-dire les moyens de mise en œuvre, qui lui transmettaient. Et donc, on a fait un calcul économique, un résultat net, qui constitue une forme de pension alimentaire que la métropole verse aux communes. Et donc, sur ce milliard, la métropole reverse aux communes de l'ordre de 350 millions de fiscalité reversée au sens large avec la dotation de solidarité communautaire, etc. Donc, le budget de la métropole, c'est déjà plus un milliard. C'est quelque chose comme 650 millions de dépenses. On a là-dedans à peu près 300 millions de masse salariale qui correspond aux agents qui travaillent sur les compétences voirie pour l'essentiel de la métropole. Pas que, mais c'est le pôle important de la métropole. Et on a ensuite une part importante de dépenses qui sont des versements à des structures autres, par exemple DECOCET. DECOCET, c'est le syndicat mixte qui gère le traitement des déchets ménagers. La métropole est adhérente à DECOCET. Il n'y a pas que la métropole dans DECOCET. Donc c'est une structure qui est encore au-dessus de la métropole et qui vise à avoir un outil de traitement des déchets qui soit à une échelle plus importante que la métropole. Bon, bah, DECOCET, c'est pratiquement 70 millions d'euros chaque année de contributions. Et puis, il y a le syndicat mixte des transports, notamment Tisséo, auquel aujourd'hui la métropole verse 200 millions quasiment chaque année pendant quelques années de réalisation du métro pour contribuer au financement. Donc voilà les grands équilibres de ce qu'est le budget de la métropole en fonctionnement et en investissement. On est, selon les années, entre 250 et l'année dernière, 500 millions. D'investissements réalisés, parce qu'on a toujours ce qu'on appelle un effet cloche. En début de mandat, on travaille les projets, on procède aux arbitrages, on lance les projets, et donc on a une courbe de fin de mandat, on monte en puissance au fil du mandat. Donc là, on a terminé le mandat dernier avec la réalisation massive des investissements décidés à partir de 2020, et cette année, on va poursuivre, terminer les projets en cours avant de procéder aux arbitrages pour le mandat qui s'ouvre.
Les recettes du budget, de quoi sont-elles constituées, notamment quelle est la part des impôts locaux dedans et comment a-t-elle évolué ces dernières années?
Alors, là aussi, c'est toujours compliqué parce qu'il y a tellement de réformes qui s'accumulent au fil des années que ce qui est vrai il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui et probablement la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pour l'essentiel, normalement, les recettes de la métropole, c'est les recettes qu'on appelle économique. C'était la taxe professionnelle à l'époque, c'est devenu la cotisation foncière des entreprises, la cotisation économique territoriale qui concerne à la fois la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui devait être supprimée, qui l'a été en partie mais pas totalement. Et puis on avait avant la taxe d'habitation qui a été remplacée pour la partie qui concernait la métropole par une fraction de la TVA que l'État perçoit normalement. C'est un prélèvement sur les recettes de l'État qui est venu compenser cette réforme. Donc à la fin, on pourrait dire aujourd'hui qu'on a des recettes pour l'essentiel économiques, mais que ces recettes économiques, elles sont en partie le remplacement de recettes qui étaient antérieurement des recettes ménages. Donc tout ça est évidemment extrêmement compliqué. Ce qu'il faut retenir, et pour les gens, ceux qui travaillent à Toulouse ou qui sont propriétaires à Toulouse, payent une partie de leurs impôts à la commune, pour le foncier bâti et à la métropole. Et ceux qui travaillent, eh bien, ils payent, s'ils sont artisans, commerçants, profession libérale, la cotisation foncière des entreprises qui va à la métropole. Et pour les très grosses entreprises, la CVAE, mais il y a peu d'entreprises qui la payent parce que c'est à des niveaux de seuil de chiffre d'affaires assez élevés. Au total, je dirais que les recettes de la métropole, c'est probablement moitié-moitié, c'est-à-dire moitié venant des entreprises, moitié des ménages. Même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, parce que par exemple, une société civile immobilière, c'est une société, mais en même temps, c'est souvent une propriété purement personnelle ou purement privée, voire de ménage. Donc, c'est difficile de faire des réponses aussi tranchées et avec des chiffres très précis. Grosso modo, moitié-moitié ménage et entreprise. Et c'est l'ensemble de ces recettes qui contribuent au financement du budget de la métropole.
Et si on parle des dépenses maintenant, donc vous avez évoqué les principaux postes, hein, mais comment ont-elles évolué ces dernières années? Est-ce qu'il y a des économies importantes qui ont pu être réalisées?
Alors, on a eu un mandat perturbé sur le mandat 20-26, puisqu'il y a eu le Covid en 20, la crise économique, la guerre en Ukraine. Donc, on a subi à la fois des augmentations liées à l'inflation pour un certain nombre de dépenses. Par exemple, je rappelle que la masse salariale, les collectivités décident de créer des emplois ou pas, mais le salaire des fonctionnaires, il est décidé par l'État. Et que donc, on n'a strictement aucune maîtrise du point d'indice qui sert de calcul à la rémunération. Et lorsque l'augmentation de l'inflation est apparue, l'État a décidé unilatéralement d'augmenter le point d'indice. Et il y a peu de temps, fin 2024, début 2025, il a aussi décidé d'augmenter, là pour le coup, massivement les cotisations retraite des fonctionnaires, puisque dans ce domaine comme dans les autres, il est incapable de mettre en œuvre des réformes, de les assumer dans la durée. Et donc, on se retrouve avec des déficits colossaux sur le régime de retraite des fonctionnaires qu'il va falloir compenser par une augmentation massive des cotisations. C'est quelque chose de très lourd, puisque pour une collectivité comme la nôtre, on a quelque chose comme 5 à 7 millions par an sur 3 ans, donc qui s'additionnent, 21 millions au total, d'augmentation des cotisations de caisses de retraite des fonctionnaires. Mais globalement, notre trajectoire a toujours été la même. Parce que nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts, eh bien, il fallait qu'on maîtrise les dépenses. Alors même sans augmenter les impôts, on a une actualisation forfaitaire des bases chaque année, c'est-à-dire l'inflation qui fait qu'on a un peu plus d'argent chaque année. Et comme on est sur un territoire dynamique, on a un peu plus d'entreprises, un peu plus d'habitants qui contribuent modestement au budget. Donc d'une année sur l'autre, on a toujours un petit peu plus de recettes. Il faut faire en sorte que l'augmentation des dépenses soit inférieure à l'augmentation des recettes. C'est ce que nous faisons.
J'en reviens aux investissements. Eux, est-ce qu'ils sont restés stables durant le précédent mandat ou est-ce qu'ils ont plutôt augmenté? Alors, il y a évidemment dedans un très gros poste, c'est la troisième ligne de métro.
Alors, sur la ville de Toulouse, on a eu une programmation pluriannuelle des investissements sur le dernier mandat qui était une programmation importante, hein, plus de 900 millions, presque un milliard d'investissements réalisés sur le mandat. Sur Toulouse Métropole, par rapport au mandat précédent, on était encore en croissance avec plus de 2,2 milliards d'investissements réalisés sur le mandat. Et la dernière année, notamment 2005, a été marquée par un niveau d'investissement...
2025, vous voulez dire.
2025, pardon, a été marquée par un niveau d'investissement extrêmement élevé, puisque on a terminé à autour de 500 millions d'investissements réalisés. Donc c'est tout à fait considérable. Au moment où Tisséo lui-même mettait en œuvre le projet phare du plan de déplacement urbain, qui n'a pas comporté que la troisième ligne, il faut le rappeler. Il y a aussi le doublement de la ligne A il y a quelques années, le prolongement de la ligne B vers le Sicoval et le développement de tous les linéos sur le territoire qui a montré à l'ensemble des habitants du périmètre des transports urbains quand même une façon nouvelle de voir la politique des transports avec de la cadence, de la régularité et de la granularité sur l'ensemble du territoire. Mais c'est vrai que le projet de troisième ligne, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait significatif avec un peu plus de 4 milliards de budget sur ce projet, ce qui en fait le projet de transport en commun le plus important après celui du Grand Paris sur le territoire national.
Ce budget pour la troisième ligne de métro, budget d'investissement, il a été revu plusieurs fois à la hausse en raison des crises successives depuis 2022. Il y a eu la guerre en Ukraine, bon, la hausse des tarifs de l'énergie, de certaines matières premières. Après ce premier conflit, aujourd'hui, la guerre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à une certaine stabilité ou est-ce qu'il pourrait encore grossir?
Alors, il y a eu, et il y a parfois des critiques sur, au début, vous aviez parlé d'1,5 milliard, aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards, etc. Il faut rappeler que le projet initialement présenté pendant la campagne de 2014, c'était un projet qui était de l'ordre de 14 kilomètres et que nous sommes sur un projet qui porte sur 27 kilomètres. Donc, les discussions avec le territoire, l'élaboration du plan de déplacement urbain, l'enquête publique ont contribué à adapter le réseau et à transformer cette ligne comme une ligne qui correspond quasiment à l'addition des deux lignes, A et B. Donc, le prix et le coût a augmenté en raison de l'augmentation du doublement quasiment de la distance desservie par cette
troisième ligne. Ça, si on peut
dire,
c'est un effet volume, entre guillemets.
Voilà. Et ça, ça veut dire que il ne faut pas comparer ça avec le premier chiffre, mais on était ab initio sur l'élaboration du projet, sur arbitrage initial, sur quelque chose qui était de l'ordre de 2,8 ou 2,9 milliards. Et aujourd'hui, dans les 4 milliards, il y a évidemment non seulement la troisième ligne, mais aussi le prolongement de la ligne B vers le Sicoval. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on intègre comme si c'était dans la troisième ligne, mais ça n'est pas. Ce qui s'est passé effectivement et qui pèse pour plusieurs centaines de millions d'euros, c'est le fait que la crise économique et la reprise de l'inflation est intervenue alors même que personne n'imaginait que cette inflation puisse en 2 années sur le territoire français, rien que 2 années, atteindre 10% cumulé. Et donc évidemment, lorsqu'on a des marchés, ceux qui font des marchés publics, mais même des marchés avec les entreprises, vous avez des clauses d'actualisation des prix qui sont automatiques en fonction de l'inflation et d'un certain nombre d'indices. On a eu sur le béton ou sur l'acier, qui sont des éléments et des composants essentiels en matière de génie civil, on a eu des augmentations de coûts qui étaient encore plus importantes que ceux de l'inflation. Donc ça a évidemment contribué à augmenter le coût. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et malgré tout, hein, c'est que ce n'est pas de l'argent perdu parce que c'est de l'argent qui est investi sur le territoire. Et à un moment où la crise du budget de l'État fait que l'État réduit ses budgets, à un moment où la crise économique a largement freiné l'investissement des entreprises et du secteur privé, c'était important que l'investissement public prenne le relais. Que la commande publique prenne le relais. Et c'est bien ça, ce projet. Bien sûr, ce n'est pas le maçon du coin qui travaille sur un chantier comme ça, mais ce ne sont pas non plus des salariés qui viennent de l'autre bout du monde. Ce sont des entreprises françaises et essentiellement les entreprises et leurs antennes régionales avec des sous-traitants de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang qui sont vraiment des entreprises de PME du secteur et de la zone géographique de la métropole.
Est-ce que l'augmentation de ce budget, pour les raisons que vous venez d'évoquer, concernant la troisième ligne de métro, a eu des répercussions sur les autres investissements que vous aviez prévus? C'est-à-dire, est-ce que certains ont dû être revus à la baisse ou différés, voire abandonnés?
Alors, on avait prévu dès le départ, puisqu'on a travaillé à partir de 2014 sur ce projet, on a mis en place ce qu'on appelle l'étude de soutenabilité budgétaire au niveau TICO très tôt, à partir de 2017-2018. On est aujourd'hui à la 7e version de l'étude de soutenabilité, c'est-à-dire quasiment chaque année, on l'a mis à jour. Donc cet exercice qui n'avait jamais été réalisé. C'est pour ça que lorsque j'entends certains opposants critiquer le manque de transparence, ça me fait doucement rigoler parce que personne jamais n'avait fait cet exercice régulier de mise à jour et de transparence totale. Cet exercice nous a permis d'anticiper et donc d'intégrer dans nos prospectives le fait qu'à un moment, on allait investir beaucoup d'un côté et que peut-être de l'autre côté, il allait y avoir un impact. En réalité, on avait piloté ça pour faire en sorte que ça n'ait pas d'impact, notamment sur la métropole. La difficulté à laquelle on a été confronté, parce que là, on a 4 années sur lesquelles la contribution de la métropole passe de 104 millions quasiment à quasiment 200 millions pendant 4 ans, pratiquement, j'arrondis parce que les chiffres, c'est les valeurs qui comptent, eh bien, cet effort-là, on l'avait programmé, on l'avait prévu. Et ce n'était pas de nature à réduire de façon structurelle la capacité d'investissement de la métropole. Le problème, c'est qu'à partir de 2025, l'instabilité gouvernementale nous a conduit à subir de façon totalement imprévue et imprévisible la loi de finances pour 2025, la loi de finances pour 2026, où à chaque fois l'État, étant incapable de faire des choix et d'aboutir à des arbitrages au sein de l'Assemblée, a trouvé la facilité de faire des arbitrages sur le dos des collectivités locales et singulièrement sur le dos des métropoles, qui sont considérées comme étant des grandes choses riches qui peuvent supporter ce que l'État ne peut pas supporter. La réalité, c'est évidemment que ça n'est pas vrai. Ça fait en 2 ans plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été ponctionnés unilatéralement par l'État, alors que lui-même fait peu d'économies. Ça nous a contraints à marquer des stops brutaux sur des typologies de dépenses, par exemple en bloquant les recrutements et en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Ça va nous amener, par voie de conséquence, certainement en 2026, d'ores et déjà à limiter le lancement de programmes nouveaux. Et probablement, ça aura un impact sur les prochaines années en termes de capacité d'investissement. Mais encore une fois, ce n'est pas tant le métro, parce que ça, c'était programmé depuis longtemps et c'était piloté, que ces efforts exigés de l'État.
Qui en plus revêtent un certain degré d'incertitude parce qu'on a parfois l'impression que l'État navigue un peu à vue et que vous-même vous subissez ça dans les métropoles,
La dernière loi de finances, quand on voit les arbitrages de dernière minute que le Premier ministre a accordé sur la loi de finances pour obtenir le consentement implicite du Parti socialiste à ne pas voter la censure, bon, on voit bien que ça n'a ni queue ni tête, il n'y a plus aucune logique dans les mesures de la loi de finances.
Alors tout ça, tout ce que vous venez de détailler a évidemment des conséquences sur l'endettement global de la métropole. Quel est son montant aujourd'hui? Comment a-t-il évolué d'ailleurs depuis 2020?
Alors la dette de la métropole, elle a été sur la période relativement stable. Je pourrais même dire, si j'étais de mauvaise foi, qu'elle a un tout petit peu baissé sur la période 2020-2026. Mais en fait, ce n'était pas tant une logique de réduction de l'investissement qui permettait une réduction de la dette que simplement le fait que lorsque les taux d'intérêt, et les Français s'en souviennent, vos éditeurs s'en souviennent, il y a eu une période et des années où les taux d'intérêt ont explosé, eh bien on a décidé de ne pas emprunter à ce moment-là en utilisant le fonds de roulement, c'est-à-dire notre épargne. Et donc on a absorbé notre épargne et nos fonds de roulement pour éviter d'emprunter sur cette période de pic de taux d'intérêt. Donc, facialement, le stock de dette a un peu baissé, mais dans les faits, on est allé piocher dans le fonds de roulement qu'il va falloir
dans les réserves,
reconstituer demain. Donc, la dette, globalement, sur le mandat précédent, elle s'est stabilisée autour d'1 milliard d'euros, ce qui est très satisfaisant pour une métropole comme la nôtre. On pourrait se situer autour de 1,5 milliard d'euros sans difficulté. Donc, on est aujourd'hui dans la moyenne très bonne des métropoles. On est autour de 7 ans de désendettement et c'est une situation qui est confortable pour pouvoir assumer les coups durs.
Ce qui veut dire aussi que vous avez conservé, et vous l'évoquiez il y a quelques minutes, la capacité d'investissement de la métropole est intacte. Et vous pouvez aujourd'hui continuer à poursuivre la politique d'investissement telle qu'elle a été prévue à ce jour.
La politique d'investissement Toulouse Métropole, elle est structurellement maintenue au niveau où elle était. Modulo les deux éléments que j'ai évoqués. Le premier, c'est que sur les années 2026 à 2028, on double quasiment notre contribution à TICO. Donc on apporte plusieurs dizaines, à peu près 70 à 80 millions de plus chaque année que ce qu'on apportait par le passé. Et donc ces 70 à 80 millions, forcément, ils réduisent ponctuellement notre capacité d'investissement. Et le deuxième élément, c'est qu'en deux ans, on a pris plusieurs dizaines de millions, hein, entre 30 et 50 millions d'euros sur la métropole de ponction de l'État. Et que si ça se poursuit, ça a un moment où ça va avoir un effet négatif et délétère sur la capacité d'investissement.
C'est l'incertitude que j'évoquais tout à l'heure. Mais est-ce que ça va se poursuivre ou pas ?
Soyons clairs, si l'État arrête et engage réellement les réformes qu'il doit assumer, lui, et à partir du moment où en 2028, on aura entamé la baisse de la contribution à TICO, qui était une baisse ponctuelle, on retrouve immédiatement notre capacité d'investissement telle qu'elle était jusqu'à présent.
Alors tout ça, ça a aussi des conséquences sur le volet dépenses, parce qu'il a fallu faire, j'imagine, des économies par rapport à cette incertitude concernant les dotations de l'État. Comment vous avez arbitré pour faire des économies ? Est-ce qu'il y a des domaines auxquels on ne touche pas ? Je ne sais pas, par exemple, l'éducation, les mobilités. Et puis il y en a d'autres où on sait qu'on a des gisements d'économies possibles.
Alors, encore une fois, là, c'est collectivité par collectivité. L'éducation, c'est une compétence municipale.
Oui, c'est vrai.
Donc je prends plutôt les mobilités pour la métropole. Encore une fois, tout dépend de la situation à laquelle on est confronté. Quand on se retrouve sur une année avec un choc sur une année, comme on est sur un budget annuel, c'est bête, mais c'est comme ça, c'est comme un bilan d'entreprise du 1er janvier au 31 décembre. Il suffit pour régler un peu les problèmes de décaler des choses qui étaient prévues sur cet exercice à l'exercice suivant pour pouvoir rétablir les comptes sur cet exercice. On ne fait que reporter, mais s'il ne s'agit que d'un accident ponctuel, on peut y faire face. Évidemment, si on fait ça et que l'année suivante, l'accident se reproduit, ben, on ne peut plus le faire, ça ne marche plus. Donc, il y a un moment où l'exercice est limité. Alors, bien sûr, c'est d'abord maîtriser les dépenses d'exploitation, les dépenses de fonctionnement. La masse salariale, bien sûr, mais aussi les contributions qui sont versées aux structures extérieures. Le problème, c'est que j'ai dit, c'était difficile par rapport à TICO, qui est à la fois l'une des plus grosses dépenses de contribution dans notre budget et sur les années où on ne pouvait pas le remettre en cause puisque c'était acté depuis longtemps. Donc c'est surtout la masse salariale et les dépenses d'exploitation, les dépenses générales qui ont fait l'objet d'une très grande attention. Un petit effort sur les subventions au tiers et puis derrière, dans un certain nombre de cas, sur des dépenses d'investissement qui pouvaient, eh bien, un report à l'année suivante, voire l'année d'après.
Vous parliez des subventions. On entend assez souvent les acteurs associatifs, notamment culturels, se plaindre d'être la variable d'ajustement lorsqu'il s'agit de faire des économies dans une collectivité et à la métropole, entre autres. Qu'est-ce qu'il en est réellement ?
Il en est réellement que sur notre territoire, on a des dépenses en matière de politique culturelle au sens large qui sont à peu près le double de ce qui peut exister dans les grandes métropoles comparables. Donc je pense que dans ce domaine comme dans d'autres, les gens qui se plaignent seraient inspirés d'aller regarder comment ça se fait ailleurs pour voir si véritablement et essayer de faire preuve de bonne foi dans leur analyse et dans leur critique. J'observe d'ailleurs que c'est à peu près toujours le même secteur qui se plaint lorsque tous les secteurs sont concernés aujourd'hui par les crises financières et que tous les secteurs font des efforts.
Ils doivent faire des efforts.
Et qu'il y a effectivement dans le domaine culturel, malheureusement, régulièrement, des dérives qui sont observées et qui montrent que les marges sont évidemment possibles. On n'est pas aujourd'hui dans un monde où des acteurs associatifs ou la forme associative est souvent répandue, mais enfin c'est souvent beaucoup des entreprises culturelles d'abord et avant tout, c'est-à-dire des gens qui vivent de leur travail et c'est tout à fait respectable. Mais lorsqu'on vit de son travail, eh bien il faut se préoccuper aussi, pas seulement des dépenses que l'on génère par son salaire et sa rémunération, mais aussi des recettes que l'on va chercher. Et donc on ne peut pas avoir une logique qui consiste à tendre la main vers la collectivité en disant c'est moi qui décide et c'est vous qui payez. Donc les acteurs culturels, comme tous les acteurs associatifs, comme tous les partenaires des collectivités, comme les collectivités elles-mêmes, comme nous-mêmes, avec nos propres agents, nos propres politiques publiques, nous devons aujourd'hui faire des efforts. Nous sommes dans un pays qui n'est pas en dépôt de bilan, qui est en ruine budgétairement. Le débat parlementaire aujourd'hui est totalement neutralisé par absence de majorité. J'espère que l'élection présidentielle viendra purger cette situation. Mais la réalité, c'est que notre pays est en ruine. Et ceux qui disent le contraire mentent.
Alors, mais ça va nous permettre de conclure. Et je vais vous poser cette question. Compte tenu de la situation financière actuelle de Toulouse Métropole et du contexte national avec un État très endetté qui doit lui-même faire des économies, sous quels auspices s'ouvre le nouveau mandat?
Des auspices qui sont et qui restent quand même favorables, je crois qu'il faut qu'on ait conscience, et je le dis souvent à mes collègues, que nous sommes dans une région et dans une métropole, la métropole toulousaine, qui par rapport aux autres métropoles françaises, se trouve quand même dans une situation peu défavorable. Une croissance économique, une croissance démographique, qui n'est pas acquise pour toujours, mais qui malgré tout donne les conditions d'un développement et donc de pouvoir continuer à faire plus de choses demain que ce qu'on faisait avant. Il faut avoir cette réalité en tête pour bien savoir que nous avons malgré tout des fondamentaux de bonne qualité grâce à ça. Alors, chaque mandat a ses difficultés. En 2014, on a gagné les élections en reprenant une situation qui était en train de s'effondrer sur notamment la ville de Toulouse. En 2020, on a pris le mandat avec un confinement, une guerre en Europe et la reprise de l'inflation. Cette fois-ci, on arrive au bout de la logique budgétaire de l'État, qui ne manquera pas sur ce mandat d'avoir des conséquences massives sur le budget des collectivités locales. Il faut donc à la fois faire preuve d'innovation, faire preuve d'économie de moyens, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir comment on peut faire ce que l'on veut faire, mais avec le moins de moyens nécessaires. C'est un exercice difficile, mais qui peut réussir si on s'y met tous. Nous refusons d'abandonner nos ambitions pour cette métropole, parce que, et on l'a vu au travers de tous les classements qu'il y a eu ces dernières années, qui plaçaient la métropole et Toulouse en tête de tous les classements et le palmarès européens et internationaux, on a aujourd'hui acquis une stature, donné une image, grâce à tout le travail réalisé. Il faut qu'on garde ce message positif à l'égard de toutes celles et ceux qui nous rejoignent chaque année, et notamment les habitants, mais aussi les entreprises qui viennent créer de la richesse ici.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Sacha Briand, d'en avoir été l'invité et d'avoir fait ce point sur les finances de Toulouse Métropole. Merci de nous avoir présenté les enjeux auxquels la collectivité métropolitaine est confrontée et les perspectives de ce début de mandat. Je signale à nos auditeurs que le budget 2026 de Toulouse Métropole est consultable dans le détail en vous connectant à l'adresse www.métropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.